Bon, c'est vraiment une chance immense de pouvoir écrire un livre qui est lu d'aussi près. Enfin, c'est extraordinaire. C'est vraiment... je vous remercie beaucoup pour cette lecture attentive. Enfin, voilà, vous y avez vu sans doute beaucoup plus de choses que moi-même en lisant. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions, interrogations. Je vais reprendre dans l'ordre, hein, ça va peut-être être un peu rébarbatif, j'essaie de regrouper des choses pour pas que ça fasse trop soutenance de thèse malgré tout. On va éviter cet effet-là. Alors, le frère Luc m'a fait un compliment qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il a dit que c'était un livre fidèle à Bonaventure. Venant de vous, ça me touche beaucoup, évidemment. Et je vous retourne le compliment parce que si ce livre est fidèle à Bonaventure, c'est parce qu'il vous a eu pour modèle. Je le dis de manière très simple. Hein. J'ai vraiment, pour ce qui est du ton, vous en avez parlé aussi, de la minorité du ton. Vraiment mon modèle a été le frère Luc, parce que ce qui m'a beaucoup frappé en lisant sa thèse, c'est la clarté de l'expression, la facilité avec laquelle on pouvait la lire, alors qu'il disait des choses effroyablement compliquées, mais ça passait tout seul. Et alors je ne sais pas comment ça s'est fait, par imprégnation peut-être, mais en tout cas j'ai pu écrire d'une manière peut-être un petit peu semblable. Voilà, c'est ce qui explique à mon avis en grande partie le fait que j'ai pu écrire cette thèse sans chercher à plaquer des idées qui me seraient propres sur Bonaventure. De façon générale, mon présupposé, ma méthode initiale, c'était vraiment d'éviter d'imposer quelque chose de Bonaventure, parce qu'il me semblait que c'était un auteur qui en avait souffert plus encore que tous les autres. De cette façon qu'on a très souvent, alors je ne sais pas si c'est nous modernes en particulier, mais de cette façon qu'on a de s'emparer les auteurs pour leur faire dire ce qu'on a envie qu'ils disent. Voilà. Et j'avais absolument envie d'éviter ça, parce que je me disais que sinon, ça ne valait pas du tout la peine de consacrer 5 ans de ma vie à un tel travail. Alors, c'est vrai, vous avez fait allusion au fait que Bonaventure, pour sa part, est souvent, lui, considéré comme infidèle par rapport à la tradition franciscaine. Donc, l'un des buts de ma thèse, qui s'est révélé en fait au fur et à mesure, c'était effectivement de montrer l'évidente filiation de Bonaventure avec François. Ça se sent dans tout ce qu'il a écrit, aussi bien dans ses écrits spéculatifs que dans ses écrits spirituels. Alors j'ai un regret, c'est que je n'ai pas pu exploiter, faute de temps, parce que l'œuvre de Bonaventure est énorme et il m'aurait fallu 5 ans de plus, je n'ai pas pu exploiter tous ces commentaires de l'évangile de selon Saint-Luc, selon Saint-Jean, les sermons, voilà. Donc tous ces textes-là, malheureusement, ne sont pas cités, hein, dans mon volume. Alors j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de rattraper ce manque-là, voilà, parce que je pense vraiment que c'est un manque, mais je suis sûre qu'on trouverait des tas de choses pour qui montreraient avec plus de force encore ce que Bonaventure dit dans ses écrits spéculatifs, et ça ferait ressortir d'autant plus l'esprit franciscain qui l'anime, à mon avis. Alors, je précise juste une chose, c'est qu'on ne sait pas si c'est Bonaventure en personne qui a décidé de brûler les livres en particulier. Bon, je le dis juste en passant pour le disculper un petit peu, parce qu'il semblerait que ce soit quand même le fruit d'une décision prise en chapitre, même si on n'a pas de traces, effectivement. Mais voilà, effectivement, l'ordre était très divisé à ce moment-là, et c'est peut-être la chose qu'ils ont trouvé à faire, ce qui est très regrettable pour nous et pour les historiens. Mais en fait, c'est peut-être que grâce à ça, Bonaventure et ses contemporains ont pu, à un moment de crise quand même extrêmement pénible et durable, sauver l'ordre de division extrêmement grave. Bon, après, je ne suis pas favorable au fait qu'on brûle des livres, évidemment. Mais voilà, c'était simplement pour préciser ce point. Quoique, il y a des livres qui méritent d'être brûlés quand même, peut-être. Après tout. Mais enfin, c'est vrai que c'est ces vies qui ont été brûlées, on le regrette évidemment, et on est d'autant plus heureux que Jacques Dallaran, on est retrouvé hein, récemment. Voilà. Alors, il y a un petit passage justement où j'essaie de prendre position un petit peu par rapport à l'interprétation de Jacques Dallaran dans La Malaventure de François d'Assise. Parce que, effectivement, la manière dont l'historien, bon, c'est un historien extrêmement, extrêmement précis, conséquent, enfin, vraiment remarquable à tous égards, mais la manière dont un historien peut traiter Bonaventure est nécessairement décevante pour un philosophe ou un théologien, parce que on sent bien que tout ce qui est d'ordre symbolique, spéculatif, ne lui dit pas grand-chose, quoi, au fond. Alors que chez Bonaventure, c'est là que s'exprime la filiation avec François. Voilà. C'est comme ça que c'est passé à la postérité, finalement. Pas seulement sous forme d'expérience ou d'intuition, mais aussi sous forme de concept, au fond. Voilà. Ça compte aussi. Alors j'en viens à, effectivement, une chose que je n'ai pas abordée, et je voyais exactement, quand vous en parliez, je me disais, ah oui, ça aurait été à cet endroit-là, ça aurait été merveilleux. La fameuse page 321 que vous avez citée. Bon, sur cette discussion, effectivement, par rapport à la question du Christ comme rédempteur, est-ce qu'il est rédempteur Est-ce qu'il s'est incarné pour être rédempteur, ou est-ce qu'il s'est incarné parce que de toute façon il devait s'incarner? Voilà. Alors sur le fond, en fait, on se rend compte que Thomas et Bonaventure au final adoptent la même position, mais effectivement on sent bien, vous l'avez très bien dit frère Luc, que chez Bonaventure il y a une sorte de regret. Alors, de regret, je le dis peut-être un peu fort, mais il est tellement respectueux de la tradition, et effectivement des Écritures. Il dit également, ben voilà, dans les Écritures, on peut lire que le Christ est venu pour nous sauver. Voilà, c'est dit, c'est répété. Voilà. Mais effectivement, vous avez raison de souligner que malgré tout, Scott a sans doute trouvé énormément de matériaux pour soutenir sa propre thèse, selon laquelle le Christ devait s'incarner de toute façon, même indépendamment du péché. Chez Bonaventure, il a sans doute trouvé tous les éléments nécessaires. Et effectivement, c'est cohérent avec toute la pensée de la reconduction chez Bonaventure. La reconduction, en fait, en deux mots, c'est le grand mouvement général par lequel la création retourne à Dieu. Et ce grand mouvement général passe par l'homme, en particulier, et plus spécialement par le Christ, puisque le reconducteur propre de l'homme, c'est le Christ, c'est la tête. Donc c'est par là que tout doit passer pour retourner à Dieu. Et effectivement, je vois très bien dans le passage dont vous parlez, où je parle du Christ reconducteur, je vois très bien où j'aurais pu effectivement citer le texte dont vous avez parlé, et puis raconter un petit peu ce débat. Effectivement, ça aurait été bien. J'ai pas autre chose à vous dire. Mais c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. Alors, ce que je voulais dire simplement pour finir avec cette question-là, c'est que on voit bien justement à l'œuvre sur cette question le tempérament foncièrement conciliateur de Bonaventure. Bonaventure n'est pas un auteur polémique. Ou bien quand il est en désaccord avec une position, il ne le fait pas savoir de manière explicite le plus souvent, ou alors, enfin, c'est très, voilà, c'est avec beaucoup de douceur, disons. Et sur cette question-là, on voit bien qu'il essaie de garder une place pour la position que finalement il n'adopte pas, mais qu'il trouve extrêmement intéressante et qui le touche particulièrement. On le sent bien. Donc on voit bien à l'œuvre son tempérament foncièrement conciliateur. Et si Olivier Boulnois était là, il vous dirait que pour un néoplatonicien, c'est normal. Les néoplatoniciens sont les conciliateurs. Alors après, il y a différentes sortes de néoplatonisme. C'est ce que j'ajouterai pour ma part. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces points-là. Le frère Thierry Dominique parlait des assassinats que j'ai commis. Alors il faut que je vous dise quand même que... C'est pas pour me disculper, hein, mais j'ai eu pour directeur de thèse d'abord Joël Biard, qui a été un directeur de thèse extraordinaire. comme j'en souhaite à tous ceux qui font des thèses. Vous savez, le directeur de thèse qui vous relie attentivement, sans attendre 6 mois après avoir reçu votre courrier, etc. Enfin, vraiment un directeur extraordinaire. Et puis, pour autre directeur de thèse à la Cato, j'ai eu Emmanuel Falk. Emmanuel a fait une thèse sur Saint Bonaventure. Mais dans une perspective tout à fait différente de la mienne, puisque Emmanuel Falk est phénoménologue, et moi, c'est pas du tout ma culture d'origine, on va dire. Et Emmanuel me disait toujours, il faut qu'il y ait une thèse dans ta thèse, il faut qu'on sente des débats, des polémiques. Enfin, en gros, il trouvait que c'était trop mou, si vous voulez. Bon, alors je me disais, je vais faire un effort, voilà, pour... pour plaire à mon directeur de thèse. Le premier ne me reprochait pas du tout ça, hein, parce qu'il a une approche beaucoup plus historique des problèmes, et donc ça ne le gênait absolument pas qu'il n'y ait pas d'assassinat dans la thèse. Et puis je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vrai, Emmanuel a raison, peut-être que je devrais un peu plus montrer des différences d'interprétation. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors je ne veux pas dire que c'est à cause d'Emmanuel Falk qu'il y a des assassinats, dont il est lui-même victime parfois en plus. Mais voilà, c'est vrai que en même temps, je pense que ça, c'est ce qui permet de lire le livre sans que ce soit trop ennuyeux malgré tout, parce qu'il est très long. Et puis moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de vraiment savoir, d'apprendre à connaître quelle était ma position vraiment sur Bonaventure, parce que sans ça, je pense que peut-être que j'en aurais jamais pris conscience, hein, donc ça a été un exercice assez salutaire pour moi. Alors je suis contente de l'avoir fait de manière sympathique, d'après ce que vous dites, c'est déjà ça. Mais après, je dirais, voilà, bon, ça fait partie du débat intellectuel, quoi, donc j'assume tout à fait ce que j'ai pu dire. Alors, quand vous dites que je n'ai pas interprété, j'ai essayé de ne pas le faire, voilà, comme je le disais au départ. Mais j'y ai été encouragée, je vous l'ai dit plusieurs fois, je le répète, parce que ceux qui sont là ne connaissent pas forcément cette préface. J'ai été encouragée à cela par la préface que vous avez écrite lors de la réédition du livre de Bernard Montagne sur l'analogie chez Thomas d'Aquin. Ça a été un texte très important pour moi, parce que j'y ai vu la confirmation d'une attitude qui me semblait absolument fondamentale, l'attitude à adopter qui me semblait fondamentale à l'égard des textes anciens de façon générale, de tout texte d'ailleurs, et qui finalement n'est pas adoptée par beaucoup d'universitaires. Et vous disiez une chose toute simple, c'était qu'il fallait simplement lire les auteurs, sans chercher, sans rameuter Foucault, Derrida, enfin tout le monde, quoi, voilà. Et ça me plaisait beaucoup parce que ça entrait en résonance avec mon expérience. Alors ça peut paraître bizarre, mais ma lecture de Nietzsche. Parce qu'en fait, avant de travailler sur Bonaventure, figurez-vous, j'ai travaillé pendant des années et des années sur Nietzsche, que j'ai lu de manière très précise, très assidue, voilà. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Nietzsche, d'ailleurs. Et j'ai donné des cours à la Cato sur Nietzsche. Je ne sais pas si quelques étudiants qui sont là s'en souviennent, mais voilà. Et je dirige encore parfois des maîtrises sur Nietzsche avec beaucoup de plaisir. Et il y a une chose que j'ai apprise avec Nietzsche, c'est d'apprendre à lire, justement. Parce que c'est un auteur tellement difficile qu'on peut lire tellement mal, de travers, de tout ce qu'on veut, que nécessairement, soit on apprend à bien le lire, soit on s'y casse les dents. Et donc, pour moi, il était clair que je ne voulais pas lire autrement que comme j'avais appris à lire Nietzsche. Alors là, c'est le moment que je rends hommage à Patrick Wötling, qui était mon directeur de maîtrise, qui est un grand spécialiste de Nietzsche, le plus grand en France, je pense, en ce moment, et qui m'avait vraiment encouragé à lire Nietzsche de cette manière. C'est lui qui me l'a appris. Et finalement, ça, j'ai pu le faire par rapport à Bonaventure. Et j'y ai été encouragée vraiment par votre préface, frère Thierry Dominique, parce que j'avais pas vraiment l'impression que c'était légitime jusque-là. Ou alors on tombe dans la pure et simple histoire, dans l'exposition des doctrines, et c'était pas non plus ce que je voulais faire exactement. Donc ça a été vraiment un encouragement important pour moi à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question-là. Alors, ça ne veut pas dire que je refuse, par exemple, qu'on fasse une lecture phénoménologique de Bonaventure ou qu'on fasse de la philosophie analytique avec Bonaventure. Pas du tout. Mais il me semblait qu'il fallait à un moment donné simplement donner la parole à Bonaventure. Voilà, tout simplement, parce que ça faisait un peu longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Voilà. En France, en tout cas, il faut reconnaître que voilà. Alors, bien sûr.
C'est un assassinat, non ? C'est un génocide.
Mais depuis la thèse de frère Luc Mathieu, en France, on n'avait pas vraiment eu de thèse, j'allais dire une thèse toute bête. Vous voyez ce que je veux dire ? Une thèse au service de l'auteur, c'est tout. Voilà. C'est exactement ce dont je rêvais. Une thèse au service de l'auteur. Si vous me dites que c'est bon, que j'ai réussi à faire ça, je suis comblée. C'est ce que je voulais faire. Alors, j'ai bien aimé quand vous avez dit, effectivement, Thomas et Bonaventure se complètent, mais on ne peut pas faire de concordisme. Ce que dit Gilson. Effectivement, alors, assez tôt, en fait, je me suis dit, parce que la grande tentation quand on fait une thèse sur Bonaventure, c'est de l'opposer à tout craint à Thomas d'Aquin. Ce qui est ridicule. Bon. Moi, je me dis toujours, Thomas et Bonaventure nous ont été donnés en même temps, à la même époque. Et pour moi, c'est un peu comme les quatre évangiles, vous voyez ? Donc, il n'y a pas de raison de dire, ah, bah, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, ça c'est... Ça n'a pas de sens, les deux sont donnés en même temps. Peut-être qu'un jour, on aura plus d'explications à ce sujet. Mais enfin, voilà. Et moi, je trouve que c'est très bien et qu'effectivement, ça permet à chacun de rester les pieds sur terre et de ne pas traiter son auteur comme un absolu, comme celui qui est indépassable, qui a absolument tout dit, qui est la doctrine. Voilà. Donc je trouve que c'est très sain que ces deux géants de la philosophie et de la théologie aient vécu en même temps et produit leurs œuvres si différentes et si proches en même temps, c'est assez curieux, au même moment. Donc effectivement, je n'ai pas essayé de faire de concordisme, il y a de vraies différences entre les deux auteurs, et c'est peut-être le moment justement que je réponde à vos questions. Alors par rapport à la dissemblance, c'est une vraie question ça. Il y a plusieurs passages, effectivement, bon il faut que je reprenne au départ, je repars de la 34 en 1215. Ce concile qui affirme que... dans le rapport entre le créateur et la créature, la dissemblance est infiniment plus grande que la ressemblance. Bon, il semble que la voie de la dissemblance, du coup, soit préférable à la voie de la ressemblance. Du coup, on peut s'interroger sur l'entreprise de Bonaventure, puisque lui a choisi la voie de la ressemblance. Est-ce que ça veut dire qu'il s'oppose, tout simplement, à cette phrase du Concile ? Alors, pour répondre tout de suite à votre... dernière interrogation, je crois. Effectivement, je n'ai pas vu de référence explicite au concile chez Bonaventure. Il faudrait vérifier, mais je ne crois pas. C'est vraiment cette phrase, dissimilitudo magis, etc. Cette phrase est généralement citée de mémoire, et d'ailleurs, ça ne correspond pas exactement au texte du concile, comme vous l'avez vu. Donc, je n'ai pas vraiment d'informations fracassantes à vous annoncer à ce sujet. Alors, quelle est la signification de l'entreprise de Bonaventure, ce primat qu'il accorde à la ressemblance, alors que le Concile venait d'affirmer le contraire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, l'une des pistes que j'ai essayé de suivre, c'est qu'en fait, le concept de ressemblance tel que Bonaventure le définit, inclut... Alors, il l'inclut, ça veut dire que d'une certaine manière, la ressemblance est première. Mais elle est première au sein de la Trinité elle-même. En fait, Bonaventure ne part pas d'une réflexion sur le rapport entre créateur et créature. Il part d'une réflexion sur la vie trinitaire. Et dans la vie trinitaire, ce qui lui saute aux yeux, si je puis dire, c'est le fait que le Fils est la ressemblance du Père. Donc c'est là qu'il pense le concept de ressemblance de manière pure, si j'ose dire, pour l'appliquer ensuite à d'autres situations et d'autres problèmes. Et en fait, dans la Trinité, on peut inclure une forme de dissemblance dans la ressemblance. Cette dissemblance, ce sera tout simplement l'altérité, la différence, ce qui fait qu'une personne ne peut pas être confondue avec une autre. Ce qui fait que le premier intérêt de la dissemblance, qui est de marquer une différence, est déjà inclus dans la ressemblance pour Bonaventure. Bon, ça, c'est un premier élément de réponse. Même dans la Trinité, d'une certaine manière, comme il y a de la ressemblance, il y a de la dissemblance. Ça va ensemble. Parce que pour Bonaventure, alors que nous, dans la ressemblance, nous voyons tout de suite l'identité, Bonaventure, lui, voit la relation, l'altérité. Donc, il y a déjà toute une part du mérite de la dissemblance qui est présente dans la ressemblance à ses yeux. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle le concept de dissemblance est finalement assez absent de son œuvre, c'est que la dissemblance, au sens fort du terme, c'est le péché. Et le péché, pour Bonaventure, même s'il est massif dans notre vie quotidienne, même s'il faut lutter, etc., ben, malgré tout, le péché, il est toujours secondaire. Il n'y en avait pas au début, il n'y en aura pas à la fin. Donc c'est encore une bonne raison de dire que la dissemblance, sous cet aspect-là, ne prime pas sur la ressemblance. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Ouais. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il se fiche de la dissemblance. Il utilise le terme quand même malgré tout de temps en temps, ne serait-ce que par respect pour Saint Bernard quand même.
Saint-Augustin.
Et puis Saint Augustin. Mais c'est surtout les textes de Saint Bernard qu'il cite à ce sujet, si je me souviens bien. Mais c'est vrai que comme dans son appareil conceptuel à lui, il a fait entrer la dissemblance dans la ressemblance, eh bien, il y recourt assez peu, parce que son concept de ressemblance est tellement riche et articulé que finalement, il n'a guère besoin de la dissemblance. Ça, c'était pour votre première question. La deuxième question, c'était par rapport à l'aspect anti-dionysien de Bonaventure. C'est vrai que c'est assez surprenant. C'est assez surprenant parce que moi, j'avais toujours pensé, on m'avait toujours présenté Bonaventure comme ça, en tout cas comme le disciple de Denis au XIIIe siècle, comme Bonaventure était aussi le disciple d'Augustin, le théoricien des idées. Bon. Alors, pourtant, effectivement, ce qui m'apparaissait de plus en plus évident avec cette histoire de ressemblance, c'est qu'il y avait une vraie rupture avec Denis, et ça se voit jusque dans le rapport entre Bonaventure et Thomas, effectivement. Alors, j'en viens à cette proposition de Bonaventure qui est formulée très tôt dans son œuvre, selon laquelle ce n'est pas seulement la créature qui ressemble au créateur, mais le créateur qui ressemble à la créature. Ce qui est rigoureusement impossible si on s'en tient au sens basique de la ressemblance. Alors, Bonaventure s'en sort en disant qu'en fait, là aussi, il faut revenir à la vie trinitaire. Il faut toujours revenir à la vie trinitaire. De toute façon, avec Bonaventure, c'est souvent comme ça qu'on s'en sort. Dieu et ressemblance de la créature, tout simplement parce que le Père a engendré le Fils, et que le Fils, en exprimant le Père, exprime le monde. C'est en tant qu'expression du monde qu'il est ressemblance du monde. Il ressemble au monde par avance, si j'ose dire. Vous parliez de la haute couture tout à l'heure. Qui ressemble par avance à ce qui va être, à la mode qu'on va voir fleurir sous nos yeux cet été, eh bien là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il annonce par avance la couleur et il est ressemblance en tant qu'exemplaire, dit Bonaventure. Alors que les créatures, elles, évidemment, elles sont ressemblance non pas en tant qu'exemplaire, mais en tant qu'elles sont produites sur le modèle de l'exemplaire. Elles sont ressemblance en tant que copie, si je le dis comme ça, et non pas ressemblance en tant que modèle. Voilà. Donc on peut considérer le concept de ressemblance sous ces deux aspects. Alors vous allez me dire, mais du coup, ça n'est pas univoque, l'emploi du concept de ressemblance dans les deux phrases. Effectivement, ça ne peut pas l'être. C'est vrai que chez Bonaventure, on n'est pas du tout dans le cadre d'une univocité. Alors on peut dire que sous certains aspects, il annonce l'univocité de Dean Scott, mais je pense que ça n'est pas si évident. Alors qu'est-ce qui fait que malgré tout, Bonaventure parvient à sauvegarder, si j'ose dire, la transcendance de Dieu ? Mais là encore, je crois qu'il le fait parce que il a solidement, il me semble, hein, il a solidement montré quelle est la relation et la différence en même temps entre le Fils et les créatures. La différence de régime qui existe entre les deux, la différence de diffusion entre ce qu'il appelle la diffusion trinitaire, la diffusion éternelle, et puis la diffusion dans le temps, qui ne sont jamais placés sur le même rang. Voilà. Alors, c'est pour cette raison-là qu'effectivement, il refuse d'utiliser le concept de participation. Vous avez bien dit, c'est vrai que c'est tout à fait étonnant de sa part. On aurait pu s'attendre au contraire. Mais effectivement, il refuse d'utiliser le concept de participation parce que pour lui, le concept de participation implique qu'on participe à une même nature. C'est-à-dire, pour lui, ce concept est complice de l'univocité, ce qu'il refuse absolument. Alors, je pense que ce simple refus du concept de participation lui suffit, d'un point de vue strictement conceptuel, j'entends, à garantir que le fossé ne sera pas franchi, que cette distance qui est bonne entre Dieu et la créature ne sera pas franchie. Voilà. Alors, pour autant, Dieu est le tout proche, mais chez Thomas d'Aquin aussi, j'ai envie de dire. Même si c'est exprimé d'une autre manière. Dieu est le tout proche, mais effectivement, il n'est pas ressemblance de la créature au même sens que la créature est ressemblance du Créateur. Alors, pour illustrer ça, il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur la mystique, le langage mystique de Bonaventure, sur l'écart par rapport à Denis. Parce que, bon, c'est bien connu que Bonaventure reprend les grands thèmes dionysiens sur la vie mystique, notamment purification, illumination, élévation, les trois stades, les trois voies de la vie mystique. Bon. Et puis, Bonaventure parle de l'extase, lui aussi parle du silence, de la ténèbre lumineuse, etc. Tout ça est vrai. Et en même temps, quand on lit les textes mystiques de Bonaventure, on est frappé par le fait que se produit une sorte d'incarnation du langage mystique. Ça veut dire que sur le terrain même de Denis, de la théologie mystique, Bonaventure renverse, sans le dire, bien sûr, il renverse en fait la perspective de Denis, parce que au lieu de la ténèbre lumineuse, du sans-forme, de l'inconnaissable, ben, il y a l'époux. Voilà. C'est le cantique des cantiques qui est là, derrière. Alors, c'est plus chrétien, si vous voulez. En tout cas, c'est plus biblique, ça c'est sûr. Donc, c'est plus chrétien. Mais en tout cas, ça me semble assez exemplaire de l'attitude de révérence et en même temps de respectueuse distance que Bonaventure entretient à l'égard de Denis. Et je crois que ça vaut à peu près pour tous les thèmes. Il ne manque jamais une occasion de citer la théologie mystique, et puis en même temps, ça donne quelque chose de tout à fait différent dans le ton, quoi. Même le silence dont parle Denis, Bonaventure le transforme en cri de joie, en chant, en foule en liesse qui acclame Dieu dans la Jérusalem céleste. En fait, tout est transfiguré. Alors, je ne sais pas ce qu'en aurait dit Denis, mais... Alors, la troisième question, c'était sur l'expression. Oui, j'avais pas repéré effectivement que Thomas l'utilise en un sens bien précis, qui est celui de l'expression du Père par le Fils. Ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous disiez que j'avais tué Deleuze, en fait. Dans ce chapitre sur l'expression où je parle du fameux livre de Gilles Deleuze sur le problème de l'expression, justement chez Spinoza, et où Deleuze retrace la genèse du concept d'expression. Finalement, c'est pas tellement à Deleuze lui-même que je m'en prends. C'est plutôt à ceux qui, les lecteurs de Deleuze, qui ont voulu dire « Ah ben finalement, Bonaventure, c'est compatible avec ce que dit Deleuze ». Mais j'appelle au respect de Gilles Deleuze, en fait, loin de l'assassiné. Mais non, ce n'est pas compatible avec ce que veut Deleuze. Ce que veut Deleuze, c'est une expression purement immanente, point. chez Bonaventure, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'y a pas d'expression purement immanente. Il y a une immanence de l'expression au sein de la Trinité elle-même, d'accord ? Il y a une certaine immanence de l'expression sur le plan des créatures, par exemple, quand cette bouteille s'exprime, hein, que la substance exprime sa ressemblance et m'envoie ce qu'elle est dans tous les sens. Mais quoi qu'on fasse, il n'y a pas d'expression immanente entre la créature et le créateur. Or, c'est ce que Deleuze veut. Mais on ne peut pas... Voilà, justement, il a tout à fait raison, Deleuze, de dire qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche chez Bonaventure. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Il est tout à fait conscient de ça. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec Deleuze, c'est lorsqu'il part du principe que la véritable expression doit être immanente. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que, pour moi, c'est un coup de force philosophique qui n'a absolument aucune nécessité rationnelle à cela. Voilà. Là, je ne suis pas d'accord, effectivement. Mais c'est pas tellement à Deleuze lui-même que je m'en prends, c'est plutôt aux gens qui essaient de dire « Ah, mais Bonaventure correspond aux critères deleuziens. » Mais Bonaventure n'a pas à correspondre aux critères deleuziens. Pourquoi ? Est-ce que Deleuze est un plus grand maître que Bonaventure ? Non, je ne crois pas. Je ne dis rien de plus, on va regarder. Mais ça ne me semble respectueux ni de l'un ni de l'autre, en fait. Voilà. Sur la piste que vous suggérez sur Thomas et l'analogie, est-ce que Thomas aurait changé d'avis en parlant avec Bonaventure sur l'analogie ? Ah ben ça, j'aurais jamais osé y penser. C'est bien parce que c'est vous qui le dites. Peut-être pour me faire plaisir. Mais j'aurais jamais pensé à ça, franchement. Mais après tout, pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est assez étonnant l'itinéraire de Thomas par rapport à l'analogie, et après tout, c'est pas impossible. Mais bon, après, il faudrait montrer avec des textes, etc. Et ça, c'est autre chose. La cause déficiente, c'est le dernier point. Alors, Bonaventure, en fait, parle de la causalité efficiente. Hein. Mais c'est vrai que la causalité efficiente... dans une thèse sur la ressemblance, n'est pas vraiment mise en valeur, parce que effectivement, la causalité exemplaire prend beaucoup plus de place, il faut bien le dire. Voilà. Alors pour autant, et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé du concept de création chez Bonaventure, mais la causalité efficiente a sa place. Hein. Elle a vraiment sa place pleine et entière, sans équivoque.
Et sans rôle séparateur.
Mais elle exerce son rôle séparateur, mais parce qu'il ne peut pas en être autrement, Dieu est créateur. Donc voilà. Mais c'est vrai que Bonaventure, si je le dis de manière familière, n'en fait pas des tonnes avec la cause efficiente. Et c'est vrai, vous avez raison, il en parle moins que Thomas, je pense. Visiblement, le travail de séparation pour Bonaventure, encore une fois, ne se fait pas seulement par le biais de la causalité efficiente. Le travail de séparation se fait en amont déjà dans la différence entre le père et le fils, qui est l'origine de toutes les différences et de toutes les altérités. Donc, à ce titre-là, la causalité efficiente, évidemment, est un outil indispensable pour parler du rapport de créateur à créature. Il faut bien que Dieu soit cause efficiente pour que le monde soit. Mais... Ça n'est pas l'élément déterminant pour parler de la séparation entre Dieu et la créature, me semble-t-il. Du coup, Bonaventure, contrairement à un certain nombre d'auteurs néoplatoniciens, dont Denis, n'a pas de rancœur particulière ou de méfiance particulière vis-à-vis du langage. C'est très clair. Tous les mots, ou presque, lui semblent bons, pour parler de Dieu ou du rapport entre Dieu et la créature, sauf participation. Là, c'est très clair.
Donc on a exemplarité sans participation, ça c'est fort quand même.
Bah, c'est parce qu'il prête un sens bien précis à la participation. Mais si l'on veut, la participation au sens où Thomas l'entend est bien chez Bonaventure. Mais jamais Bonaventure ne l'appellera participation. Parce que le mot est trop chargé pour lui de... d'une possible confusion des natures. Voilà. J'ai fini ce que...
Ça peut être dit, sauf pour la théologie de la grâce.
Alors oui, tout à fait, dans ce domaine précis, effectivement.
Et il prend soin, d'ailleurs, dans une note, de dire qu'il n'en parle pas au sens de Platon.
Voilà, ouais, ça c'est intéressant. Voilà, ai-je bien répondu? Ben, merci à vous. Peut-être.
Alors, un grand merci à tous les trois. D'abord, on a à la fois l'impression d'avoir entendu une discussion très savante et avoir en même temps compris des tas de choses. Hein, c'est toujours un plaisir de vous écouter et d'écouter Laure en particulier parce qu'on se sent. Rien que d'entendre une fois que le péché est toujours secondaire, moi ça éclaire.
Ça fait du bien de s'en souvenir.
Ça fait du bien de l'entendre.